Du lundi au vendredi, entre 8h et 9h sur RJB, format A3.
Samedi prochain, le centre de Sornetan organise une soirée de soutien titulée « Regards croisés entre Himalaya et Jura ».
Une façon de mettre en avant et de soutenir l'association Rikszentzanskar, une ONG suisse qui est engagée depuis 1998 aux Zanskars, en Himalaya indien.
C'est l'occasion pour nous d'en savoir plus sur cette association avec son président et fondateur, Pascal Beret. Pascal, bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, Zanskar, c'est le nom de cette région, notamment là où vous soutenez les différents projets. Rikszent, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, Rikszent, c'est le prénom, enfin, il n'existe pas vraiment de prénom dans la culture tibétaine, mais c'est le prénom de mon frère de cœur, voilà. C'est lui qui s'occupe du projet sur place.
C'est toujours un contact avec quelqu'un, c'est ça parfois aussi qui permet finalement de semer les premières graines qui vont faire naître une ONG.
Tout à fait. Rikszent, je l'ai rencontré en hiver au Ladakh, à Leh plus précisément. Il était en compagnie de 8 autres Zanskarpas et c'est lui qui m'a invité à le rejoindre dans sa contrée très éloignée de l'Himalaya.
Alors, le Zanskar, c'est dans l'Himalaya, c'est très isolé. Vous pouvez nous situer un peu mieux cette région du Zanskar ?
Alors, c'est dans le nord de l'Inde, ça appartient au territoire indien, à la frontière tampon entre le Pakistan et la Chine. Voilà, ça culmine à 3500 mètres d'altitude, ce sont des hauts plateaux. On parle souvent du Chantang, c'est à proximité du Chantang, c'est au-delà de la barrière himalayenne, et c'est prisonnier entre la barrière himalayenne et la chaîne du Zanskar, voilà.
Et vous, comment vous avez découvert cette région ?
Bon, j'ai découvert le Zanskar grâce à Olivier Felmy. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent ce photographe, Olivier Felmy. Et suite à ça, bon, j'ai énormément déambulé à travers l'Himalaya. Enfin, pas l'Himalaya, pas sur ces 6000 km, mais une grande partie de l'Himalaya, parce que j'ai toujours été passionné de montagne, d'alpinisme. Et voilà, donc j'ai fait énormément de voyages à travers la chaîne himalayenne.
Alors, des voyages à la création d'une ONG, c'est quoi le trajet ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui déclenche le besoin, l'envie de s'engager pour cette région ?
Je me suis souvent posé la question, mais je crois que je vais pas chercher de réponse à cette question. C'est quelque chose de spontané.
C'est naturel.
C'est naturel,
comme ça.
C'est spontané, c'est comme ça. J'ai rencontré Rikszent suite à cet extraordinaire voyage sur le fleuve gelé. Bon, très, très, très pénible, hein. Des températures de moins 40. C'était une merveilleuse aventure et surtout une merveilleuse aventure humaine. Suite à ça, j'ai parrainé un de ses enfants pour qu'il puisse aller à l'école et ça s'est enchaîné. C'est tout. J'ai hérité de mon grand-père et voilà, spontanément, j'ai décidé d'investir cet argent dans un projet humanitaire.
Vous rentrez actuellement d'Inde, justement, aussi, vous avez passé aussi par le Zanskar. Avec quoi est-ce que vous revenez à chaque fois lorsque vous rentrez de cette région-là ?
Bon, déjà, en Suisse, c'est un énorme travail pour collecter de l'argent et puis initier des projets qui sont à la demande, bien sûr, des Zanskarpas, hein. Et quand on va sur place, c'est clair que finalement de voir cette école avec 280 enfants qui ont la possibilité de se former pour affronter la vie, affronter la pauvreté, la misère sociale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut rester humble, bien sûr, par rapport à tout ça. Moi, ce que je vais chercher, c'est simplement le contact et le bonheur. Voilà.
Vous parlez de votre frère de cœur qui a donné aussi son nom à l'association. Qu'est-ce que vous éprouvez réellement quand vous êtes là-bas ?
En Himalaya, aux Zanskars en particulier, les Zanskarpas considèrent qu'en fait, on est deux esprits, enfin, les deux corps et un seul esprit. Voilà. Donc ça veut tout dire. Je crois que il y a une forme de magie qui s'est installée lors de notre voyage sur ce fleuve. Et là aussi, je ne cherche pas de réponse. C'est quelque chose d'absolument sans... Enfin, je ne trouve pas les mots pour décrire la relation que j'entretiens avec cet être d'exception qui lui, travaille d'arrache-pied. Il a tout abandonné, il a tout quitté justement pour pouvoir s'investir dans nos différents projets en Himalaya.
Alors les projets, on va y revenir tout à l'heure. La vie quotidienne aux Zanskars, ça ressemble à quoi ?
Alors aujourd'hui, elle a énormément changé. C'est une région qui vivait en semi-autarcie, voire en autarcie totale. Et maintenant, avec l'incursion du monde moderne et du développement économique indien, ça a pas mal changé. Bon, il y a une immense route, une grande route qui est en train de se construire à travers le Zanskar. Il y a pas mal de Zanskarpas qui travaillent sur cette route. Mais comme il n'y a pas d'entreprise de transformation, le quotidien, c'est s'occuper de son cheptel, s'occuper de ses champs, faire à manger. C'est une vie extrêmement, extrêmement simple. Mais aujourd'hui, quand même, les Zanskarpas sont obligés de s'engager dans l'armée indienne pour pouvoir avoir un revenu et soutenir leur famille. Enfin, ils s'investissent dans différents projets liés au développement de leur région.
Jamais 203. Format A3.
Et nous sommes de retour avec notre invité, Pascal Beret.
Avec qui nous parlons de l'association Rixen Zanskar, engagée au Zanskar, une région nichée au cœur de l'Himalaya.
Alors, quels sont, Pascal Beret, les projets que mène actuellement votre association ?
Alors, le projet phare, c'est une école. On a 280 enfants dans cette école. Sinon, nous organisons aussi des camps médicaux. On engage de l'argent aussi pour la préservation, la protection du patrimoine local, dans l'agriculture. On essaie aussi de transformer le fromage, enfin transformer le lait en fromage, pardon, parce que sur les estives du Zanskar, ils fabriquent un fromage séché au soleil qui est très très acide. Donc on essaie d'utiliser ce lait extraordinaire de l'Himalaya pour en faire du fromage et du beurre.
La tête de moine himalayenne.
Voilà. Et oui, c'est effectivement. Oui. Il y a deux Zanskarpas qui sont venus à Montfaucon chez Lafleur se former. Et il y a deux ans, j'ai vu la première tête de moine aux Zanskars. Oui.
Alors, vous parlez d'une école. Le projet s'appelle le Marpaling. Comment vous l'avez mené ?
Alors, bon, quand j'ai hérité de mon grand-père, là, j'ai bien sûr demandé à Rizin ce qu'il fallait faire de ce pécule. Et il m'a dit, on va construire une école. C'est très important, sa sainteté, le Dalai Lama, pense que c'est au travers de l'éducation qu'on arrivera finalement à sortir de la misère, comme je l'ai déjà dit. Et voilà, donc, j'ai dit, mais bon, une école, c'est un projet de vie. Donc, c'est compliqué. Et il m'a dit oui. J'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. Et spontanément, encore une fois, je lui ai dit, ben d'accord, on s'engage pour cette école. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré.
Donc, il faut construire l'école, accueillir 280 enfants, hein, vous nous l'avez dit tout à l'heure, faire venir les enseignants, former les enseignants. C'est vraiment un projet complet, on va dire.
C'est un projet extrêmement complexe. C'est vrai que il est difficile de recruter des enseignants, surtout qui sont moins bien payés que les enseignants du gouvernement. Je vous donne un exemple. Dans le petit village de Dichar, il y a à peu près 15 enseignants pour 40 enfants, mais il n'y a personne à l'école. Voilà. Donc les enseignants sont pas très très bien payés dans notre école, mais on n'a pas les moyens de les payer plus. Donc c'est une réelle vocation pour eux. Donc recrutement difficile. En plus, pour les fidéliser, il faut un hébergement de qualité. Ce qu'on est en train de réaliser, on a l'ancienne école est devenue le staff quarter. C'est là qu'on accueille les enseignants. Et aujourd'hui, grâce à des anciens élèves là qui sont à l'IPFL, on est en train de construire quelque chose d'un peu révolutionnaire en pisé. Donc un hébergement pour les enseignants, de manière à les fidéliser aussi, et puis de faire en sorte que leur séjour au Zanskar soit un peu plus doux.
pour les élèves aussi, je suppose qu'il faut... y a l'école, il y a les enseignements, il y a les cours, mais il y a ce qui va à côté, il faut aussi les loger, les nourrir, parce qu'ils sont assez éloignés de leur famille.
Certains élèves parcourent à peu près... Je veux plutôt parler en heures plutôt qu'en kilomètres, 2 heures. Il leur faut à peu près 2 heures pour se rendre à l'école, 2 heures aller, 2 heures retour. D'autres sont véhiculés grâce à des bus. Donc on a 3 bus qui remontent en direction de Padoue, mais qui descendent dans la vallée de Cham, la Doda, etc. Donc voilà, on va chercher les élèves. Sur place, 280 élèves, il faut aussi leur donner de l'eau. Bon, ils viennent avec leur petit pique-nique à midi, donc il a fallu aussi organiser tout un réseau d'eau. Oui, ça a été assez complexe pour pouvoir mettre cette école sous toit, puis organiser tout le campus. En plus, on a des ateliers de menuiserie, des ateliers bois, où on fait aussi de la formation avec les élèves de la classe 7, 8, voire la classe 6. Enfin, voilà, donc autour de ce complexe, il y a aussi des jardins. Donc il faut aussi s'occuper des jardins, on a planté des arbres au milieu de ce désert himalayen. Donc oui, un immense projet.
Et puis votre association, elle aide donc les populations qui sont établies aux Anskars, mais elle les aide tout en respectant leurs besoins et surtout leur culture. Vous ne leur imposez rien.
Non, on leur impose absolument rien. C'est toujours à la demande des Anskarpas qu'on réalise des projets. Peut-être, de temps en temps, on donne une petite impulsion. Et puis si la graine prend, ben voilà, on l'arrose, c'est certain. Là, on a aussi un projet qui est lié à la laine de yak. Parce que c'est clair que les Anskarpas ont un cheptel en montagne, mais ils auraient tendance à s'en séparer. C'est dommage parce que le yak est très important pour préserver justement la génétique de ce cheptel. Donc grâce à la laine, on réalise des écharpes solidaires. Enfin voilà, on a aussi un projet lié au tourisme parce qu'aujourd'hui, ils utilisent des petits chevaux, donc on essaie de réintroduire le portage par yak, etc. Donc on essaie de faire en sorte qu'ils ne brisent pas totalement leur équilibre ancestral.
Alors ce samedi, soirée de soutien organisée à Sornetan, qu'est-ce que vous allez présenter lors de cette soirée?
Alors un diaporama, c'est principalement des images assez extraordinaires de cette région himalayenne. Voilà, c'est vraiment pour se plonger au cœur de cette région. Mais ce n'est pas une conférence extrêmement pointue, c'est plutôt vraiment une présentation générale de la région et aussi du projet d'école.
Il serait fier, le grand-père, votre grand-père, Pascal Buret.
Oh, je pense que c'était un personnage assez discret, assez modeste et humble, mais très certainement au fond de lui. Peut-être un peu de fierté quand même. Oui.